Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit un invité spécial, un crossfitter qui est passé de la musculation au crossfit et donc du coup il peut nous apporter un petit peu son ressenti et il peut nous apporter aussi pas mal d'autres choses par rapport à tous ceux qui comme moi pratiquent que la musculation, enfin que avec du cardio, moi c'est du yoga et pas mal d'autres choses, mais je veux dire, il peut nous apporter cette vision-là, donc je suis content de l'accueillir, il s'appelle Théo, tout comme moi d'ailleurs. Et on va parler de pas mal de choses, donc je vais pas trop tarder avec l'intro, de nutrition, on va parler d'entraînement, on va parler tout un tas de choses, donc je pense que ça va être intéressant pour pas mal de personnes. Et puis, sur la notion de la nutrition paléo, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce que je vais vous orienter vers un contenu que j'ai fait sur ce sujet, pour que vous puissiez un petit peu vous mettre à ce type d'alimentation. Allez, ça démarre maintenant. Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai un nouveau partenaire de podcast, il s'appelle Théo, donc salut Théo.
Salut, salut, enchanté à tous.
J'avais parlé il y a quelques temps, j'avais fait en fait un appel d'offres un petit peu pour avoir une personne qui aurait plus d'expérience que moi dans le domaine du crossfit, parce que moi j'en ai pas du tout en fait, donc c'était pas très compliqué, et il a répondu présent. Il m'a envoyé un mail et comme ça, on va pouvoir partager ensemble un petit peu des infos sur le CrossFit, ce qu'il en pense, son expérience en tant que CrossFitter et que pratiquant de musculation plus fitness. Et on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter?
Bonjour à tous. Voilà, moi c'est Théo du coup. Donc je suis coach sportif depuis quelques années maintenant. Et en fait, voilà, j'ai un parcours un petit peu similaire à Théo. Du coup, je suis un ancien surpoids. Enfin, j'étais en surpoids auparavant. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis mis au sport et que j'ai découvert en parallèle à ça le fitness et la musculation. Donc, rapidement, voilà, j'ai très vite eu des résultats par rapport à mon implication. Et du coup, de là, on a découlé de la motivation pour continuer, pour toujours aller un petit peu plus loin. Et je me suis lancé après, du coup, dans une formation pour devenir coach, étant donné que je me suis dit que ce qui avait marché pour moi pouvait peut-être aider les gens autour de moi. Et c'est de là, voilà, que depuis quelques années maintenant, ça doit faire à peu près 8 ans que je pratique, vraiment de manière intense et régulière. Voilà, j'ai pu un petit peu toucher à tout et je me suis en fait assez un petit peu dérivé de la musculation ces 2 dernières années pour passer justement sur le CrossFit, qui était une discipline qui m'intéressait. Et voilà, donc globalement, en gros, pour le gros de l'histoire, je pense que...
Comment t'as... À quel moment c'était quoi la problématique de la muscu pour que tu commences à t'intéresser au CrossFit?
Alors en fait, le déclic, si tu veux, ça a été un petit peu amené un peu par hasard. En fait, j'étais vraiment dans la muscu classique pendant des années jusqu'à vouloir me tester en compétition. Donc j'ai fait une compétition
force ou body?
En body, ouais. J'ai fait un essai en body et en fait c'était la première fois que je le faisais. Donc j'avais déjà fait des petites sèches fait comme ça, donc de temps en temps avec pareil des phases de prise de masse, de sèche, etc. Mais je n'avais jamais vraiment fait une réelle sèche de compétition. Et en fait, j'ai pris une claque sur parce que je l'ai fait. Moi, je suis quelqu'un qui m'investit à 200% et quand je fais les choses, je les fais toujours à fond. Donc je me suis pas dit c'est ma première, je vais y aller tranquille, etc. Non, j'ai vraiment poussé mon corps, je pense vraiment à mes limites physiologiques. Du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal après la compète. Je suis descendu relativement bas en gras quand même, vraiment. J'ai jamais été aussi sec de ma vie. Et du coup, c'est vrai que mon organisme a un petit peu peiné à s'en remettre. Et j'ai eu une phase, en fait, sur 3-4 mois, un petit peu de démotivation. Parce que je me suis rendu compte, en fait, à quel point j'avais perdu en performance, perdu en qualité physique, enfin, que ce soit en cardio, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de tester autre chose. J'ai besoin d'un renouveau, de quelque chose qui puisse me redonner la motivation que j'avais auparavant. Et en fait, du coup, en étant en formation, j'avais dans ma classe pas mal de personnes qui pratiquaient justement le CrossFit. C'était il y a quelques années, donc ça commençait juste à arriver en France.
Ok.
Donc c'est vrai que moi je voyais ça un petit peu d'un œil, bah je savais pas trop, voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre le fait de mêler toutes ces pratiques, etc. Et du coup je me suis dit, bon bah pourquoi pas essayer. Et au
Ouais.
final en fait grosse surprise, j'ai tout de suite adhéré au principe et je suis très vite devenu fan de l'impact en fait de ce que ça vraiment ça produisait comme vraiment comme sensation et depuis en fait j'ai pas réussi à m'en passer quoi. Donc ça
Et
fait
c'est
maintenant 2 ans.
ouais.
Et voilà, c'est du coup maintenant je pratique vraiment ce sport, on va dire quasiment en exclusivité, même si je fais toujours de la musculation à côté et je garde toujours les bases que j'avais auparavant, quoi.
Et donc, quand tu disais que sorti de ta sèche, tu as eu du mal à rebondir, etc., est-ce que c'était plus une perte de motivation par rapport à ton physique ou à l'état dans lequel tu te sentais, c'est-à-dire au niveau de ton énergie, etc.?
Alors franchement, pour être franc, c'était un cumul des deux, quoi. C'est vrai que j'ai vraiment été dans le mal au niveau de l'énergie, même le fait de remanger après, etc. J'ai quand même mis 2 3 mois avant vraiment de m'en remettre, quoi.
D'accord.
Et
Elle a
je
duré
m'attends.
combien de temps, la sèche?
Ah, la sèche a été assez rude. Je l'ai commencé en février, c'était pour mai. Donc février,
Ah,
mars,
d'accord.
avril, mai, et vraiment sans aucun écart, quoi.
Ouais.
Vraiment à fond et vraiment. Zéro glucide pendant plus de 3 semaines. C'est vrai que je l'avais jamais fait de ma vie,
Ouais.
avec balance sodium potassium, etc. Enfin voilà, vraiment déshydratation. Enfin, c'est vrai que c'était des symptômes que je ne connaissais pas quoi. Donc c'était une grosse claque quoi. Mais je pensais pas mettre autant de temps à m'en remettre justement. Donc c'est de là que la démotivation en fait est un peu arrivée. Et à côté de ça, ben t'as les perfs aussi forcément qui, dès que tu reprends une barre, ben voilà, c'est il y a 30 kilos de moins par rapport à. Enfin, vraiment, ouais, c'était assez poussé. Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tes perfs sont remontées quand t'es passé au CrossFit?
Ben après, il y a. Voilà, c'est tout qui s'est enchaîné, en fait, de manière un petit peu constante. C'est-à-dire que ben, j'ai recommencé à manger un peu plus, à augmenter mes apports, etc. À, voilà, à retrouver le goût de l'entraînement. Donc, déjà, rien que le fait, voilà,
D'aimer ce que tu fais, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est remonté. Et puis au final, voilà, j'ai repris confiance en mes capacités, en ce que je pouvais faire. Et voilà, c'est comme ça que ça a découlé, que c'est remonté petit à petit, quoi. Mais ça a pris du temps quand même.
Et ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait, parce que moi, je m'intéresse toujours à la psychologie, si tu écoutes un peu mes podcasts, qu'est-ce qui a fait que tu avais beaucoup plus de facilité à augmenter tes calories quand tu as démarré le CrossFit qu'avant, quand tu étais sur ton ancienne pratique? Est-ce que tu savais que ça allait être plus taxant au niveau de l'énergie, ou c'est parce que tu étais justement dans un bon élan de motivation, du coup, tu avais plus d'appétit, etc. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de
Ouais, bien
questions.
sûr. Moi aussi, je suis assez intéressé par tout ça. Et clairement, ben ouais, c'est en fait pour te dire, mes débuts en CrossFit, ça a été vraiment lamentable, quoi. Faut le dire clairement. En fait, j'ai pris conscience à quel point le fait, en fait, par exemple, de ne faire qu'exclusivement de la, parce que du coup, pendant ma phase de préparation, c'était vraiment de la musculation axée vraiment, donc optimisée, tu vois, vraiment, voilà, tant de calories pour tel objectif, vraiment, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail analytique, etc. Pas de
Ouais.
cardio sur la prise de masse, enfin voilà, c'était un petit peu old school, si on peut dire. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ben, premier point, la première fois que j'ai fait un WOD, en fait, comme on appelle ça, c'est les entraînements type
Ouais.
CrossFit, ben, clairement, j'ai pris une claque, quoi. Clairement, je me suis rendu compte à quel point mon cardio était totalement à la ramasse
Ouais.
et à quel point, enfin voilà, le fait d'enchaîner en fait plusieurs mouvements comme ça à un rythme sans récupération, etc., à quel point ça me mettait dans le mal. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, du coup, il va falloir que j'optimise tout ça, donc que ce soit la nutrition, etc., pour pouvoir encaisser, parce que la dépense, c'est vrai que elle est énorme, quoi. Même sur une durée assez courte, clairement, tu sens qu'à la fin, t'as plus rien, t'es vidé, et t'as besoin de manger. Si tu manges pas, bah, si tu manges pas, tu peux pas avancer, c'est pas possible,
Eh
impossible.
oui. Et ton physique, il a répondu comment à ça?
Alors du coup, moi, alors là, ce que je vais te donner, c'est vraiment mon point de vue personnel, hein. C'est vraiment ce que j'ai
Ouais, non,
ressenti
mais
sur
c'est ce qu'il
moi.
faut,
Donc
hein.
c'est voilà, c'est pas une généralité. Mais en fait, déjà de base, j'avais pas mal de déséquilibre parce que j'ai commencé la muscu un petit peu, ben, pas forcément de la bonne manière, et j'ai très vite développé des points forts qui devenaient vraiment justement compromettant pour mes points faibles, quoi. À tel point qu'en fait, j'ai tellement de facilité, en fait, si tu veux, par exemple, à prendre des bras, que mon physique, quand j'étais en prise de masse, par exemple, pour une période de compète, avait du mal à être équilibré entre les pectoraux, par exemple, les dorsaux, et par rapport aux bras. Et
Ouais.
en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la variété d'exercices et le type d'exercices qui sont faits en CrossFit, m'ont permis de m'équilibrer un petit peu plus par rapport notamment au buste, à la cage thoracique, etc.
Bah,
Et
c'est
à
fou
côté.
d'ailleurs parce que les pectoraux, excuse-moi de te couper, hein, parce que il faut que tu t'y habitues, je coupe souvent en fait, parce que j'ai
Ouais, bien
toujours des
sûr, il n'y a pas de
questions.
souci. Ouais. Oui.
Ce qui est fou, c'est qu'on a tendance à penser que dans le CrossFit, justement, les pectoraux, ça va pas forcément être le muscle qu'on va le plus travailler, quoi. Enfin, qu'on va bien recruter par rapport peut-être aux épaules. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, l'image que j'ai de l'extérieur, quand je vois les mouvements, tu vois, je regarde par exemple les CrossFit Games ou même les choses comme ça, il n'y a pas souvent du développé couché, quoi. Ou
Ah ouais.
des écartés ou des choses. Donc tu casses vraiment le côté, l'idée qu'on est obligé de se taper du couché ou des écartés pour se faire des pecs saillants, quoi.
Alors, en fait, si, enfin, j'en ai fait aussi, j'en fais aussi en complément, hein, attention, mais c'est, on va dire que sur la plupart des mouvements de gym, en fait, on est, si on veut progresser sur certains types d'exercices qu'on a dans le CrossFit, clairement. Si on n'apprend pas en fait à se servir de ses pectoraux, on perd énormément de puissance et de rentabilité sur beaucoup beaucoup d'exercices.
Tu penses à
Et
quoi, aux anneaux, tout ça?
voilà, tout ce qui est gymnastique, tout ce qui va être voilà, muscle up, tout ce qui va être jeté aussi en haltérophilie, etc. En fait, si on n'arrive pas à mettre vraiment sous tension du coup ces pectoraux, on perd énormément de puissance en fait on se prive vraiment d'un gros atout pour être performant sur les mouvements de gym, etc. Et ça, on s'en rend compte en fait. D'ailleurs, tous les crossfitters de très haut niveau, du coup, arrivent à avoir vraiment un recrutement puissant des pectoraux pour aider sur les mouvements en question, quoi. Et j'ai pris conscience de ça en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, c'est pour ça quand j'ai pris conscience qu'il fallait que j'apprenne à vraiment recruter mes pectoraux. Donc forcément, j'ai fait du travail analytique pour apprendre vraiment à avoir un bon ressenti, à vraiment me servir de ces muscles-là en support pour aider les autres. Et c'est comme ça aussi que du coup, étant donné que je les avais jamais vraiment très bien recrutés quand je faisais de la muscu, ça m'a permis aussi de les développer indirectement. Même si c'était pas forcément l'objectif à la base, ça c'est venu tout seul en fait. Le fait d'augmenter le recrutement là-dessus et vraiment de prendre conscience de ça, ça m'a aidé à vraiment progresser sur le reste, quoi. Et du coup, à les développer un peu plus.
Oui. Et du coup, au niveau, en fait, ça a été quoi tes plus grosses difficultés et tes avantages? Est-ce que c'est bien d'avoir un background quand même de muscu ou c'est plutôt impactant? Je pense notamment à tout ce qui va être, tu sais, les réflexes, la coordination, etc., qu'on peut avoir sur les mouvements de muscu type body fitness, etc. Et quand on passe par exemple au CrossFit et qu'on va faire des tractions, il y a un réapprentissage, j'imagine, derrière.
Alors, ça, c'est une très bonne question que tu poses là parce que voilà, là, justement, je vais soulever un point qui est très important et je vais casser une idée reçue que beaucoup de gens ont. Clairement, alors pour avoir vu énormément de personnes, étant donné qu'aussi maintenant je m'occupe de personnes en groupe en CrossFit, on se rend clairement compte que si on n'a pas d'antécédents musculaires ou dans les sports d'explosivité, par exemple. Clairement, on peut pas. C'est très 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 compliqué de ne pas cumuler les deux. On a besoin vraiment d'une base musculaire, clairement, pour déjà être en sécurité.
Ouais.
Et il faut la caisse, quoi. Franchement, voilà. Pour c'est les exercices sont. Il faut avoir une conscience corporelle. Il faut avoir du gainage. Clairement, si une personne qui n'a jamais pratiqué de musculation et qui vient en CrossFit directement, si elle n'a pas la force nécessaire pour faire des tractions, par exemple, va très vite se faire mal sur les mouvements, justement, aider, entre guillemets, tu dois pouvoir voir un petit peu le fait d'utiliser l'oscillation du bassin,
Ah
etc.
ouais.
Voilà, ça amène beaucoup de pathologies chez les gens qui n'ont pas la capacité pour encaisser ça, en fait, parce
Et du
qu'ils
coup,
n'ont
tu
pas
leur
la
proposes quoi comme
structure.
protocole? Tu les orientes vers quoi ces gens-là?
Ah ben clairement, voilà, je leur explique que s'ils n'ont pas la structure pour encaisser cette charge d'entraînement, ça va finir par tendre vers des blessures, etc. Donc il faut faire de la musculation, absolument,
En parallèle ou tu leur
en
fais une
parallèle.
prépa?
Ah oui,
Ah
bien sûr.
d'accord, en
Ah oui,
parallèle,
en
d'accord.
parallèle. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est voilà, c'est par exemple, là, je te donne un exemple, hein, mais c'est le type de personne qui va venir et qui va ne faire que les WOD, entre guillemets. Donc les WOD, c'est le circuit imposé en fin de séance, qui va durer entre 5-20 minutes en fonction des formats, où tu vas enchaîner avec une haute intensité, soit des mouvements de gym seuls, soit de l'alternance entre de la gym, du cardio, soit de l'alternance entre de l'haltérophilie, du cardio, de la gym, tout ça dans l'idée d'aller le plus vite possible, en fait. Et ce qui pose problème, c'est que du coup, les gens qui ne font que ça, on pense en fait qu'ils vont réussir à développer un certain physique et qu'ils vont développer leur force, etc., en faisant uniquement ce type de séance. Et c'est là que du coup, les personnes se trompent parce qu'au final, ils n'ont pas conscience de tout le travail qu'il y a en amont, en fait, à côté de ça.
Ouais,
Et
des
que
jours de force, des jours
c'est
plus,
ça,
ouais.
voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de leur expliquer pour les mettre en sécurité avant tout.
Ouais, mais ils aiment pas
Parce que
ces genres de séances, non?
c'est ça, exactement. Ouais. Ils disent, ah, mais c'est long, il faut prendre 2 minutes de récupération, etc. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça. Enfin, voilà, ce genre de mouvement est tellement traumatisant. Si vous n'avez pas la masse musculaire nécessaire pour supporter ça, ben, au bout d'un moment, voilà, ça va casser, quoi. Et on ne s'y trompe pas, d'ailleurs, on voit beaucoup, beaucoup de blessures à cause de ça, notamment aussi.
Ouais, bah j'ai un exemple là d'un ancien coach de la salle où je suis qui s'est blessé malheureusement au bout de 6 mois. Mais bon, il n'était pas, comment dire, il était plus dans le circuit sportif depuis quelques années. Il s'est passionné pour le CrossFit et il a même plus, vu qu'il était coach, il a passé le level 1, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais, le level
Ouais.
1.
Et tellement pris dans la passion qu'il y allait à fond, il avait un background d'haltérophile, donc du coup il était assez confiant, mais il avait plus assez de masse musculaire et ça a pété quoi.
Ah, c'est ça.
Et donc du coup bah, il a été arrêté et tout, mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même que c'est un sport où il faut pas arriver un peu en mode touriste quoi. Il faut
Non,
vraiment.
clairement, clairement pas.
Je pense qu'il y a aussi ce côté, parce que tu sais, tu as dû le voir, qu'on associe souvent CrossFit et blessures. Les blessures arrivent, j'ai l'impression, arrivent beaucoup chez les, enfin pas les débutants, mais au début en fait.
C'est ça.
Et moins chez les personnes qui ont un plus haut niveau. Donc ta réponse en fait, ça apporte, je pense en fait, les solutions par rapport à ça. Donc travailler plus, en fait faire ce qu'on n'aime pas quoi.
Exactement, exactement. En fait, tout ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment ce dont on a besoin dans ce sport, clairement.
Et toi,
Et
c'était quoi que t'aimais pas quand t'es arrivé dans ce sport?
ben, en fait, ce qui est marrant, c'est le parallèle avec tout ça, c'est que si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que je suis passé aussi par cette case-là de complications, entre guillemets,
D'accord.
donc de blessures. Voilà, c'est arrivé aussi parce que, ben, pareil, pris dans l'engrenage au début, pas prendre assez le temps pour être sûr d'avoir la bonne souplesse, la bonne mobilité pour effectuer l'intégralité des exercices. Et du coup, ben, très rapidement, en fait, au début, quand j'ai commencé, sur les premiers mois, des douleurs au genou, des douleurs au bas du dos, des tendinites au niveau de l'insertion du triceps, des coudes. Enfin voilà, c'est du coup tout. En fait, c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait prendre conscience d'à quel point, en fait, il fallait être prêt pour ça, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est que je me suis mis vraiment à travailler ma souplesse, ma mobilité, et à travailler sur ma posture à partir du moment où je me suis fait mal, quoi.
Ouais.
Et je me suis aussi rendu compte que ça prendrait énormément de temps pour acquérir le bagage, en fait, de tous les mouvements standards dans ce sport-là. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements qu'il faut maîtriser. Et en fait, clairement, enfin, voilà, maintenant, je peux dire aux gens qu'il faut vraiment, vraiment prendre le temps. Et que ça va prendre du temps. Voilà. Que malheureusement, on a envie de faire comme les CrossFit Games, etc. Mais avant de pouvoir faire ce genre d'enchaînement à haute intensité sans risque de blessure, il faut vraiment laisser du temps. Il faut vraiment du temps. Et
Et
ça, je le sais aujourd'hui.
du coup, ton physique, il a évolué comment par rapport à ce passage-là? Je veux dire, en termes. Parce que bon, il y a eu les blessures qui sont arrivées un peu plus tard, enfin, pas les blessures, mais on va dire les gènes. Au niveau physique, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'ils vont avoir un meilleur physique en se mettant au CrossFit que s'ils font de la musculation classique?
Alors,
Toi, ton retour, c'est
clairement,
quoi?
Alors moi, clairement, j'ai envie de dire non, parce que clairement, ben, faut être clair. Hein, si votre but c'est vraiment d'optimiser le plus possible votre masse musculaire, d'avoir la meilleure définition possible, voilà, d'être le plus équilibré possible, clairement, il n'y a pas de, y a pas d'alternative à la musculation. C'est vraiment le sport qui permet vraiment d'aller à l'essentiel là-dessus. Donc ça, c'est mon constat hein, là-dessus. D'ailleurs, voilà, j'ai pas plus de masse musculaire entre guillemets que ce que j'avais quand je ne faisais exclusivement que de la muscu. Par contre, étant donné qu'on est uniquement sur des mouvements complets qui mobilisent en fait vraiment le plus de muscles à chaque fois, parce que là l'idée c'est vraiment d'utiliser le plus de muscles possible pour être le plus rentable possible.
Ouais.
Donc dans ce sens, en fait, mon physique il a changé par rapport aux proportions, comme je te disais. Donc j'ai un petit peu perdu en volume au niveau des bras, par exemple, par rapport à ce que j'avais quand je faisais de la musculation.
Ouais.
Par contre, j'ai gagné en définition au niveau de la sangle abdominale énormément. Et j'ai aussi équilibré mon bas du corps. J'ai
D'accord.
énormément pris au niveau des jambes, bah, parce que après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en CrossFit, on a une grosse partie haltérophilie et on est tout le temps en train de squatter, quoi. Donc, si tu veux, tu vas squatter 3 fois par semaine, c'est la norme, quoi.
Ouais.
Donc ça plus les mouvements d'haltéro, tu es toujours en flexion profonde en plus, donc tu vas chercher des amplitudes relativement basses. Donc du coup tu as une phase d'étirement qui est assez importante et tu crées pas mal de dommages dus à cet étirement-là. Il y a beaucoup de soulevés de terre, voilà, il y a beaucoup de front squat, beaucoup de back squat, beaucoup de travail analytique, enfin voilà. Donc forcément les jambes
Et
dans le sens où
t'avais du mal à les développer quand t'étais en fitness, ouais.
C'était mon plus gros point faible. Ouais. J'avais, comme on dit, des jambes de griffe, quoi. C'était
D'accord.
d'ailleurs, on me charriait beaucoup avec cette information, parce que, voilà, j'étais disproportionné entre guillemets par rapport aux bras et aux bras par rapport aux cuisses, quoi. À
Mais
tel point,
t'étais
quoi.
quand même fort sur le bas.
Non. Alors là,
Ah
non.
ouais?
Pas du tout. Ouais, non, non. J'avais de gros soucis. J'étais vraiment en galère sur mes charges au niveau des squats, etc. C'était pas
Mais
ça, ouais.
relié à quoi? Tu penses que c'est les entraînements que tu faisais qui n'étaient pas bons ou tu négligeais vraiment l'entraînement du bas du corps?
Ben, c'est une accumulation en fait. C'est les erreurs que j'ai faites au début, puisque quand j'ai commencé la muscu au tout début, voilà, un peu comme beaucoup de gens, hein, enfin je pense de toute façon, on fait un peu sauter le bas du corps, c'est sur les premiers mois, les premières années, et
Ouais.
on s'en mord un peu les doigts à la fin, quoi. Parce que du coup, tu te rends compte, enfin voilà, on développe une bonne masse musculaire entre guillemets sur le haut du corps, et au final, on s'intéresse pas aux jambes. Dans les premières années, on veut des pecs, on veut des bras, on veut du dos. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront.
Ouais, bah moi le premier,
Ah
hein.
oui, non, mais j'assume totalement. Hein, du coup,
Moi le premier, c'est pareil, hein. J'avais besoin d'avoir un pote pour faire les cuisses. Je me rappelle au début, quand on se mettait sous la presse, pour se motiver, il fallait être au moins à deux, alors que les bras, les pecs, tu pouvais le faire tout seul, il n'y avait pas de problème. Bon, après, ça a vite changé parce qu'ils ont tous abandonné, il n'y a que moi qui suis resté, j'avais pas le choix. Mais c'est vrai que les cuisses, en même temps, c'est pas ce qu'on a envie de développer, hein. Quand on est un mec,
C'est exactement ça, c'est ça.
on se
Et
voit
en
dans la
fait,
glace, on veut les abdos, les pecs, les bras, quoi.
et clairement, on s'en mord les doigts. Et en fait, ben, ça, ce qui a été bien aussi, du coup, c'est le fait de me rendre compte à quel point les jambes étaient omniprésentes dans ce sport. J'ai pris conscience qu'en fait, ben, il y a tout qui part de là. Clairement, tout part du bassin. La plupart des mouvements, c'est vraiment cette force de gainage entre vraiment les fessiers, les ischios et vraiment la sangle abdominale, quoi. Mais clairement, on est tout le temps en tension sur la chaîne postérieure. Tout le temps, tout le temps. Quels que soient les mouvements que tu vas faire, que ce soit des muscle-up, que ce soit des mouvements d'épaulé, d'arraché, on est uniquement sur cette bascule de hanche, en fait. Et clairement, si on n'a pas des muscles puissants au niveau des cuisses, ben en fait, on perd toute l'efficacité de la 90% des exercices en CrossFit. Tout part de cette mise sous tension en fait et de cette force au niveau du bas du corps.
Et on va dire au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé au niveau les premiers résultats, tu les as vus au bout de combien de temps? Résultats physiques?
Ben, c'est à partir du moment où les poids ou mes perfs ont commencé à augmenter. À partir du moment où j'ai commencé à mettre des barres qui soient voilà, qui commencent à être intéressantes au squat, etc., par rapport à ce que je mettais par exemple quand je faisais de la muscu et que j'étais pas forcément à fond au niveau des jambes. C'est à partir du moment où en fait les poids ont augmenté proportionnellement, ben mon muscle a répondu, quoi. Et au
Donc,
final
Ouais,
Ouais,
donc du coup, t'as eu cette relation prise de force suivie de prise de muscle, quoi.
voilà, clairement. Et après, ce qui, du coup, au final, je me suis rendu compte aussi que je répondais relativement bien, en plus en croissance musculaire au niveau du bas du corps. Paradoxalement, au fait que je l'ai
Mais.
jamais forcément bien travaillé, le fait de justement les travailler avec intensité, ben en fait je me suis rendu compte que j'avais en fait des facilités à prendre de la masse musculaire sur cette partie-là, alors que je la négligeais. Donc au final, c'était
Ouais.
tout bénéf.
Bah oui, et puis il y a la fréquence aussi, si tu les faisais trois fois, enfin, si 3 fois par semaine elles étaient sollicitées,
Voilà, c'est ça.
et puis bon, après t'enlèves tout ce qui est leg extension, tous ces trucs-là que tu faisais pas. Donc les gens qui nous écoutent, ils disent 3 fois les cuisses, non, mais parce qu'ils pensent, eux, en termes body, je pense, où tu vois, on tape
Oui,
5 exercices, etc. Toi, on est d'accord, c'est quand tu dis tu squattes, quoi. Ou alors tu fais des soulevés de
voilà,
terre, des choses
ouais.
comme ça.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, y a ça. Puis, il y a aussi quand tu travailles spécifiquement en haltérophilie, il y a beaucoup de travail, en fait, de mise sous tension, donc, qui ressemble un petit peu à des soulevés de terre, mais
Ouais.
avec des amplitudes plus importantes où tu vas quasiment être en position de squat au départ, et tout en effectuant des tirages lourds, en essayant de recruter un maximum de fibres pour être le plus explosif possible. Donc au final, ça accumulé. Donc si je te prends un exemple, hein, par exemple, une semaine type, ça va être back squat le lundi en force, le mardi, ça va être épaulé, donc pareil, départ au sol avec flexion de hanche. Le mercredi, ça va être front squat, le jeudi, ça va être soulevé de terre. Donc au final, le volume global de travail sur les jambes est quand même suffisamment conséquent pour créer une croissance, quoi.
Ouais. Et au niveau des courbatures, comment ça se passe?
Ah ben clairement, les courbatures, on s'habitue à vivre avec, quoi, hein, parce que ça laisse des traces, quoi. On en a
C'est les
plus ou moins
mêmes en
toute la semaine.
muscu qu'en crossfit?
Alors, non, c'est on va dire que alors au niveau sur le haut du corps. Les courbatures sont beaucoup moins présentes, forcément, parce que on va moins être sur le même type de travail, donc on va avoir un peu moins de dommages. Par contre, c'est vrai que sur le bas du corps, étant donné qu'on est quasiment tous les jours dessus, c'est vrai que ça laisse un petit peu plus de traces, quoi. Mais elles sont globalement moins intenses que si on faisait vraiment une grosse séance cuisse unique, par exemple. Elles sont
D'accord.
plus réparties dans la semaine, on va dire. C'est plus ça permet de pouvoir se rentraîner derrière, quoi. C'est pas non plus
C'est pas
au point
handicapant.
de non, c'est pas handicapant. Par rapport à
D'accord.
une séance de muscu où tu ferais, admettons, du squat sumo, enchaîné avec du soulevé de terre jambes tendues, enchaîné avec enfin voilà. Donc
Comment tu répartis, toi, tes séances, je veux dire, par rapport à ce qui est. Ben on va dire force, WOD, cardio, enfin tous ces trucs. C'est quoi ton programme type?
Alors moi j'ai une planification déjà un petit peu différente de celle qu'on donne par exemple aux gens dans le sens où alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que voilà je suis coach sportif donc j'ai une grosse tranche horaire au niveau de ma salle et j'ai la possibilité de m'entraîner autant que je le souhaite entre guillemets et j'ai le temps qu'il faut. Donc voilà ce que je fais est adapté par rapport à mon mode de vie à ce que je peux faire et donc du coup j'ai des séances qui sont relativement longues. Voire des fois je coupe en deux dans la journée quand je peux le faire. Donc
D'accord.
typiquement je vais avoir sur une journée type par exemple je vais avoir un premier alors il y a beaucoup d'haltérophilie aussi hein, en CrossFit on travaille beaucoup sur l'haltéro donc ça prend une grosse partie. Donc une répartition type ça va être le travail le plus taxant nerveusement et le plus compliqué techniquement au début. Donc ben, ça va être notre complexe d'haltéro par exemple qu'on va faire pour commencer.
Ouais.
Après, ça va être notre travail de force qui d'un point de vue technique, est plus facile. Donc, du coup, voilà, il y a moins de facteurs de coordination, de risque. Donc, on le place juste après. Et ensuite, on va avoir notre travail de Metcon ou WOD, en fait, en fonction de ce qu'on doit faire dans la semaine. Donc, soit un format assez court, intense. Donc, on a, par exemple, un sprint. Un sprint, c'est quelque chose qui va durer moins de 5 minutes, où clairement, voilà, le but, c'est vraiment intensité max et aller chercher le plus rapidement possible. On va avoir après du mi-long, mi-court, on va dire entre 8 et 10 minutes, où là, pareil, on est sur de l'intensité assez haute, mais on est quand même plus dans la gestion que sur un sprint. Et après, on va se retrouver avec des formats qui vont aller de 15 à 25 minutes max, où là, on est vraiment sur de la résistance. Et donc après, ça dépend du thème du jour, ça dépend de comment on a planifié la semaine, mais ça peut être, voilà, ça peut être soit accentué sur le conditionnement métabolique, soit accentué sur l'haltérophilie et sur le travail de voilà, sur le travail de gym. Ça dépend après. Ou un cumul des trois avec du coup des composantes cardio, gym et haltéro. Ça dépend.
D'accord. Et avec ça, tu arrives à faire combien de séances par semaine en tout?
Alors, moi, je fais pas mal de
Enfin,
séances.
plutôt, co combien de temps tu te reposes? Ça ira plus vite, non?
Ouais, je vois pas, c'est rapide. Ben, en fait, je fonctionne un peu comme toi, si tu veux, dans la manière où j'ai suffisamment d'expertise maintenant pour savoir quand je peux y aller ou pas, quoi. Clairement, je m'écoute, donc j'ai pas de format type. Je vais pas me dire je vais faire lundi, mardi et mercredi repos, jeudi, vendredi. Non, par exemple, des fois, ça m'arrive de m'entraîner le samedi, dimanche et de récupérer le lundi. Enfin, voilà. Globalement, j'essaie de laisser un jour de repos total dans la semaine.
Ouais.
Et après, c'est vrai que les facteurs sont tellement différents. En fait, si notre entraînement est bien cadré, on est tellement sur des composantes énergétiques qui sont opposées. Qu'en fait, on a possibilité quasiment de s'entraîner, si on peut le faire, bien sûr, quasiment tous les jours, sans forcément être en surentraînement, si on gère
Ouais.
bien tout ça. Tu vois, c'est un peu comme en muscu, ou si,
Ouais.
voilà, forcément, si tu fais 3 fois du développé couché dans la semaine, ça va être compliqué. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc, par exemple, quand on va avoir, c'est sûr que si on fait des watts qui vont durer 35 minutes, clairement, ben, ça va nous tuer la semaine, quoi. Si t'en fais un le lundi, un le mardi, un le mercredi, l'intensité, elle va pas y être, quoi, parce que c'est trop violent, comme,
Eh oui.
donc c'est le même principe, en fait, hein, la gestion, elle se fait pareil.
Mais moi, en fait, je me dis que s'entraîner tous les jours, vraiment tous les jours, c'est possible à partir du moment où les conditions extérieures ne
C'est
changent
ça.
pas, ne changent
C'est
jamais,
ça.
en fait. Mais dès que, par exemple, bon, toi, t'es coach, si tu as un problème avec un client ou si, enfin, je ne sais pas, une raison X ou Y, que tu te rajoutes du stress, ça, tu peux pas le prévoir, malheureusement, c'est les imprévus. Et je pense que plus on arrive à avoir des bonnes habitudes de vie, être le plus routinier sur tout ce qui est diète, sommeil, etc., plus on va pouvoir s'entraîner régulièrement, à partir du moment où l'entraînement il est cohérent aussi, hein, comme tu disais tout à l'heure, où on gère son intensité, etc. Mais les personnes qui peuvent pas souvent s'entraîner parce qu'elles sont épuisées, au-delà des personnes qui font vraiment de la force athlétique et qui, elles, ont besoin de récupérer très, très longtemps. Sinon, les autres, c'est souvent dans leur organisation qui, en fait, tout ce qu'il y a autour de la salle de sport, quoi. C'est pas l'entraînement en lui-même, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Je
C'est
pense qu'on
ça.
peut facilement monter à 4-5 entraînements par semaine, même si on vient de zéro sport, à partir du moment où on comprend que le sport, c'est pas juste à la salle, quoi.
Bah, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. D'ailleurs, bah, si voilà, moi j'aimerais bien aussi faire un petit parallèle là-dessus, c'est que du coup, beaucoup de personnes, je trouve, s'inquiètent d'être en surentraînement. Alors que, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu culturel, hein, c'est marrant, mais c'est vrai qu'en France, bizarrement, enfin, on aime bien en faire moins que plus. Et le fait de faire plus de 3 séances par semaine pour certaines personnes vont déjà commencer à s'inquiéter de leur récupération. Faut se rendre compte vraiment que 3 séances par semaine, ça ne représente pas grand-chose, quoi, en termes d'heures sur une semaine entière. Voilà, c'est à partir du moment où c'est fait de manière intelligente, où tout est planifié par rapport au mode de vie de la personne, au temps qu'elle va avoir à disposition, à ses objectifs, etc. Moi, je vois aucune contre-indication justement à faire plus que 3 séances, voire même 4, voire même 5, dans la mesure où ce soit fait de manière intelligente, quoi. Et
Ouais.
tu vois, enfin, c'est vrai que ce débat-là, de c'est vrai
Ben
que nous, on.
en France, je crois, on est en tête de liste de la consommation des antidépresseurs et des somnifères, donc ça indique un petit peu l'état de notre système nerveux.
Ah oui, non, mais c'est ça. Puis voilà, c'est aussi c'est le mode de vie des gens et les mauvaises habitudes et justement Voilà, c'est tout cet engrenage qui fait que forcément leur énergie au quotidien n'est pas forcément optimisée. Forcément, si l'alimentation n'est pas calibrée comme il faut, ben, clairement, voilà, ça va jouer au niveau de la récup. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est vraiment un tout de manière globale qui fait que ben, c'est sûr qu'on peut être vite fatigué si tu couples ça en plus à de la mauvaise information, à du coup des programmes qui ne tiennent pas la route. Qui sont pas adaptés au niveau de la personne, à ses antécédents, à sa morphologie, ben forcément, on se retrouve avec des blessures, avec de la démotivation, de la fatigue. Mais c'est vrai que voilà, c'est totalement évitable et totalement en adéquation avec le fait de pouvoir faire 5, 6, 7 séances dans la semaine, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ben pour revenir un petit peu au CrossFit, etc., est-ce que au niveau de ta diététique, c'est devenu plus confortable?
Ah, alors ben, là, on souligne un point intéressant, justement. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'alimentation jusqu'à présent. Alors, moi, la première grosse comparaison que je peux faire avec la diète que je suivais, par exemple, quand j'étais en musculation classique, en prépa, par exemple.
Pour rappel, tu étais en surpoids à la base, c'est
À la
ça?
base, c'est ça, ouais.
Donc avant de faire du sport, tu étais en surpoids, pour que les
Voilà.
gens aient la configuration un petit peu.
C'est ça, hein, c'est ça. Et en fait, clairement, j'ai clairement boosté mon métabolisme à un point que je ne pensais pas forcément possible en faisant ce type de sport-là, en fait, vraiment à haute intensité. Pour te donner un ordre d'idée, maintenant, enfin, là, actuellement, par exemple, rien que pour garder mon poids de corps, donc je fais 1,76 m pour 77 kilos, je suis obligé de manger au moins 3000 calories.
D'accord.
Voilà. Donc ça c'est uniquement pour garder mon poids de corps. Voilà, donc si je mange un petit peu moins, je perds du poids.
Ce qui
Donc
est pas mal parce que comme on disait, t'as une tendance, enfin à la base, à être en surpoids.
voilà,
Donc
c'est ça.
ça fait une personne avec un métabolisme de base un petit peu plus boosté. Il serait pas étonnant qu'il soit à 3 500 ou 4 000 par jour, quoi.
Voilà, ben je suis à peu près dans ces eaux-là hein, actuellement de toute façon. Et ce que je le la principale comparaison que je peux faire avec aujourd'hui et quand j'étais en période muscu, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à garder un taux de masse grasse assez bas toute l'année et à fréquence calorique assez importante quoi, à haute alimentation.
Et tu penses que c'est lié à quoi?
Moi, je pense que c'est un tout en fait par rapport déjà à la dépense calorique globale sur la semaine qui est beaucoup beaucoup plus importante que quand je faisais uniquement mes séances biceps-triceps par exemple
Mais oui.
sur 45 minutes forcément. Étant donné que j'ai aussi augmenté mon temps de travail, mon temps de séance, ça y joue aussi. Et après à côté de ça, voilà, j'ai un mode de vie assez actif étant donné que en fait donc je suis coach en salle sur Aix-en-Provence. Et tu vois, par coach, on donne aussi des cours type voilà, RPM, cardio box, ce genre de choses. Donc voilà, on va dire que globalement, dans la journée, j'ai une activité vraiment, vraiment importante, quoi. Je vais tourner aux alentours de 20 000, 25 000 pas par jour
Ouais.
et couplé aux séances, etc. Donc c'est pour ça que du coup aussi, ça permet de maintenir tout ça. Il faut bien mettre ça dans le contexte aussi, quoi. Je suis pas derrière l'ordinateur pendant 8 heures. Voilà, c'est tout l'inverse, quoi.
Ouais, tu pourrais même monter à plus de 4 000 calories, alors je pense.
Ah oui, sur certains jours, oui. Mais d'ailleurs, en fait, je n'ai pas de plan strict dans ce sens-là où j'écoute en fait mon corps là-dessus. Donc, je sais quand j'ai besoin de recharger un glucide. Voilà, donc j'adapte par rapport à ça, quoi.
Et d'ailleurs, ton alimentation, tu te bases un petit peu sur le modèle paléo, le modèle zone, le modèle. Enfin, t'as un type particulier ou non?
Alors, au niveau de l'alimentation, ouais, c'est vrai que je me rapproche quand même, plus les mois passent, etc., plus je me rapproche vraiment d'une alimentation type un petit peu paléo et aménagée hein, quand même, mais dans le sens où je vais favoriser vraiment tout ce qui est brut, quoi.
D'accord.
Clairement, c'est marrant parce que du coup, j'écoutais ce que tu disais un petit peu la dernière fois, dans le sens où c'est vrai que j'avais tendance aussi à me focaliser beaucoup trop sur les suppléments auparavant, quand j'étais en musculation. Et au profil du solide en fait. Et clairement, je me suis rendu compte que d'un point de vue ne serait-ce esthétique et performance, J'ai gagné réellement en qualité musculaire et en performance à partir du moment où j'ai commencé à substituer un petit peu la poudre et tous ces produits un petit peu transformés par de la vraie alimentation, quoi, et des produits de qualité. Et ça, mon physique, en fait, je m'en suis rendu compte de suite à quel point j'avais pas la même qualité de musculaire, par exemple, en mangeant des œufs qu'en prenant de la whey. C'est bête, hein, ça paraît bête, mais
Bah,
c'est
moi
du
je l'ai
coup.
vérifié aussi, on est plusieurs à le vérifier. Bon, après, on a des, entre guillemets, on n'est pas des bodybuilders, on a, les gens vont dire, mais qui y sont pour dire ça? Mais à notre niveau, je ne suis pas le seul, toi tu le valides, j'ai pas mal de potes autour qui valident aussi. Nous, on en est venu à la conclusion que les compléments alimentaires type poudre protéines peuvent servir quand tu as la diète, tu vois, sèche pour vraiment essayer de maintenir un taux de protéines assez élevé sans t'apporter tous les calories avec. Donc là, CrossFit, on n'en parle pas, on fait pas de sèche de toute façon. Sinon, pour une personne qui a vraiment du mal à ingurgiter plus de solide, lui, un petit peu, ben voilà, se mixer. De la poudre d'avoine, des amandes et de la whey pour essayer de se faire un gainer maison. Mais sinon, si la personne a la capacité et le budget de manger solide, ça sera plus profitable.
Ah bah clairement, clairement, clairement. Et d'ailleurs, juste, j'aimerais bien faire un petit parallèle par rapport à ça. Il y a un constat que j'ai fait. Alors, c'est vraiment un constat personnel hein, par rapport à l'alimentation, mais j'ai vraiment gagné en qualité musculaire aussi, donc sans parler de l'aspect musculation, CrossFit, etc., à partir du moment où j'ai commencé vraiment à incorporer les légumes vraiment de manière régulière dans mon alimentation. Par rapport au début où en fait j'étais un peu plus sur des prises de masse un peu old school où on était vraiment très très chargé en glucides etc. et avec peu de justement peu de légumes et clairement j'avais pas du tout le même rendu quoi. Et ça je me suis rendu compte et je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent justement
De manger
d'avoir
des légumes.
voilà c'est ça de
Moi,
manger
j'ai
des
pas eu ce
légumes.
problème.
Et d'avoir ce témoignage-là, du coup, parce que c'est vrai que c'est vraiment un constat que j'ai fait, surtout au niveau de la répartition et de la qualité, au niveau de la sangle abdominale, de la qualité de peau, etc. C'est quelque chose vraiment, je trouve, qui a vraiment changé à partir du moment où j'ai incorporé ça de manière vraiment constante, quoi.
Ben ouais, et puis après, y a des gens qui se demandent pourquoi ils ont tout le temps faim. Ils ont tout le temps faim, ils ont tout le temps faim, ils mangent pas forcément bien, ils mangent pas trop de légumes, et ils ont tout le temps la dalle. Et le problème qu'ils ont, en fait, ces gens-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que leur corps leur réclame pas forcément des calories, mais leur réclame les micronutriments,
C'est
vitamines,
ça.
minéraux, les enzymes, tous ces trucs-là. Et le corps, tant qu'il n'a pas ça, il va réclamer. Donc du coup, on se retrouve à bouffer, à manger, manger, manger. Alors des chips, du riz, des pâtes, du pain, un peu de viande de mauvaise qualité, etc. Mais on n'arrive toujours pas à subvenir à nos besoins, pas caloriques, mais on va dire tous ces micronutriments-là. Et bah, le fait d'apporter beaucoup de végétaux, moi, pourquoi je te dis, moi, j'ai pas eu ce problème, c'est parce que moi, vu que la première fois que j'ai fait un régime, j'ai dégagé tous les glucides, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit, de toute façon, je suis dans mon coin tout seul, je dégage tout. Il fallait bien que je mette quelque chose sous la dent, quoi. J'avais plus du tout de féculents. Donc, il me restait des glucides qui arrivaient que des légumes. Donc forcément, j'ai été habitué très très vite à manger beaucoup de légumes.
Ah, chose que moi, malheureusement, j'ai pas forcément fait au début. Et d'ailleurs, en fait, voilà, tu sais, c'est un peu le syndrome du putain, je comprends pas. Enfin, je prends de la masse musculaire, ok, mais il y a toujours un. Enfin voilà, habillé, ça va, mais il y a toujours un truc qui va pas au niveau de, voilà, au niveau du tour de taille. Ben, c'est ça, c'est voilà, c'est ça reste quoi, ça se bloque, ça part pas. Et c'est vrai que ça a été vraiment une galère de après. Enfin, d'avoir fait cette erreur-là pour lever tout ce gras entre guillemets localisé au niveau de voilà autour de du ventre pour le perdre, c'est vrai que ça a été compliqué quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi en changeant aussi mon approche au niveau de l'alimentation quoi.
Ben ouais, et puis de toute façon, quand tu apportes beaucoup de légumes comme ça, tu t'en rends compte. En règle générale, après les repas, moins d'une heure après les repas, tu as envie de pisser parce que tu apportes plus d'eau.
C'est ça, exactement. Ouais.
Tu te rends compte que tu bois moins durant la journée. Tu es plus obligé de te forcer à boire parce que tu apportes beaucoup plus d'eau, tout simplement, quoi. Et ça, moi, je le vois souvent, les personnes qui boivent énormément d'eau par soif, tu sais, un peu par compulsion, c'est souvent des gens qui mangent mal, en fait. Parce
Ah bah ouais, c'est
que
sûr.
leur nourriture les déshydrate complètement. Ils bouffent du sec et le sec arrive et le sec a besoin d'être hydraté. Donc ça tire toute l'eau qu'ils ont dans le corps Et du coup, ben voilà. Alors qu'on peut manger et s'hydrater en même temps sans boire de l'eau, quoi. Enfin, pendant le repas, je parle.
Ah oui, c'est clair. Ouais. Moi, c'est de toute façon, c'est vrai que du coup, je bois énormément pendant mes séances. Et après, c'est vrai que le reste de la journée, comme voilà, je mange en moyenne 300 grammes de légumes enfin, sur le repas du midi et le soir. En général, c'est vrai qu'au niveau de l'hydratation, je suis vraiment pas embêté là-dessus, quoi, parce que j'ai vraiment pas de compulsion à boire un litre d'eau comme ça par déshydratation, étant donné que j'en ai pas forcément besoin. Donc, c'est vrai que c'est important aussi. Ouais. C'est bien de le souligner.
Bah, surtout pour, je pense, pour ta pratique qui est quand même. Moi, je les vois parce qu'il y a une salle à côté où je les vois faire leur WOD. Ils sortent dans la rue en plein été, ils tapent le cardio autour de la boxe. T'as intérêt à être bien hydraté, quoi.
Ouais, on perd vraiment pas mal, on perd énormément ouais, d'eau, hein, vraiment ouais, pendant les séances. En plus, moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Donc, c'est vrai que
Depuis
la
toujours ou
partie.
c'est arrivé après ça?
Non, en fait, c'est génétique, je pense. Hein, c'est un petit peu de famille. Ça, on transpire tous plus ou moins beaucoup. Donc,
Tant mieux, au moins tu vires la flotte.
voilà, c'est ça. C'est l'avantage. Donc l'été c'est une catastrophe. Mais du coup voilà, c'est vrai que sur les entraînements, il y a vraiment une grosse perte en eau, quoi. Et clairement, ouais, c'est pour ça que du coup avec tout ce qui est associé à ça, si on ne mange pas de, on fait pas attention à cette partie-là au niveau de l'alimentation, en faisant ce type d'effort-là, clairement on va vite être carencé et ça va vite être compliqué, quoi, au niveau récup, etc.
J'espère que tu sales. Parce
Ah
que.
oui, ça, oui. Mais d'ailleurs, j'ai recommencé à saler à partir du moment où où je me suis remis à, enfin, où je me suis mis vraiment à ce sport-là, quasiment à 100%, quoi. Parce que c'est vrai que dans ma période vraiment prépa, le sel, c'était banni à 100%, forcément.
Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment coupé. Je prends un sel, bon, et après, les gens, ça va peut-être pas les intéresser. Je prends du sel rose, tu sais, d'Himalaya.
Ouais, moi aussi, j'ai le même, ouais.
Je reste là-dessus. J'en abuse pas, mais j'en ai. Je pense que quand tu manges sainement des aliments bruts, t'as pas trop te poser la question, est-ce que j'enlève le sel? Tu peux y aller, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, quand t'es sportif et que tu transpires, tu bouges, etc., on en a quand même besoin. C'est un équilibre. Et puis, je pense pas qu'il y ait une différence, honnêtement, à manger sans sel ou avec sel, même au niveau physique. Enfin, pas chez tout le monde, en tout cas. Moi, je sais que si je vire le sel, j'aurai pas de différence, hein. Au contraire, je vais peut-être même faire plus de flotte, me sentir vraiment pas bien. Il y a des gens qui pensent que manger sans sel, c'est un petit peu magique. Moi, je pense que quand tu fais correctement ton régime, je parle pour être sec, normalement, tu devrais pas trop avoir besoin de le couper, le sel. Mais bon. Moi, j'ai jamais coupé le sel, pour te dire. Sauf le dernier jour, peut-être, de mon premier shooting photo, j'avais essayé. Et je pense, il n'y avait pas réellement de différence, quoi.
Ouais, non, mais moi c'est pareil. Au final, je l'avais coupé que vraiment pour la compétition, mais après pour les petites sèches entre guillemets que j'avais déjà faites auparavant, non, j'avais toujours gardé un apport en sodium, on va dire constant, enfin sans abuser, mais jamais en prenant trop la tête là-dessus. Et après, de toute façon, ouais, c'est clair que forcément, déjà on se rend pas forcément compte aussi de à quel point il y a du sel dans les aliments industriels, etc. Et déjà, rien que le fait d'enlever ça, bah forcément, c'est pas une pincée qui va changer quelque chose, quoi.
Eh, parce que eux, ils enlèvent une. Là, quand t'enlèves toute cette merde, t'enlèves une poignée.
Ah, mais c'est
Et
énorme. C'est énorme.
c'est ne serait-ce que du pain, rien que du pain. Tu t'arrêtes de manger du pain déjà, t'enlèves pas mal de sel. Hein.
Ah ouais, c'est vrai que c'est affolant. Des fois, je me surprends en train de regarder l'étiquette de certains produits que je prenais peut-être forcément auparavant, comme par exemple les blancs de poulet sulfurisés, etc. Quand tu vois que pour 100 grammes, tu as 1,5 gramme de sel, si tu veux ton apport en protéines avec ça, ben, il te faut prendre 4, 3, 4, ouais, même 4, 5 tranches, ça te fait direct 5, 6 grammes de sel. C'est vrai que c'est. Ça fait un choc, hein, quand tu te rends compte de ça. Au final, 5 grammes pour
Et
les avoir dans la journée.
encore c'est du blanc de poulet, c'est ça va. Imagine, je te dis, tout ce qui est les barquettes surgelées, les trucs comme ça, des petits plats étouffés là. Donc
Ah oui,
là, ils te le noient
c'est.
dedans, là, hein. Il y a ça, plus du sucre, au cas où, tu vois. pour.
Ah oui, non, mais de toute façon, c'est vrai que là-dessus, je fais maintenant, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aussi à l'alimentation depuis toujours, et c'est vrai que je me rends compte de certaines merdes que j'ai ingurgitées, quoi, clairement, parce que je me dis, putain, je mangeais ça, alors que il y a vraiment la liste, il y a 50 ingrédients dedans, je dis, putain, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un réflexe de m'éloigner de tout ça, quoi.
Ouais, non, mais c'est de toute façon, c'est une bonne chose de mieux manger, on va dire. Et puis surtout, si tu as une activité soutenue comme ça, enfin, je veux dire, tes cellules, elles ont besoin de se régénérer avec des bons matériaux, quoi. Mais après, au niveau de pendant l'entraînement, est-ce que tu as une routine? Je ne sais pas, est-ce que tu prends dextrose, des choses comme ça, ou est-ce que tu es plus sur de l'eau et puis tu as des collations avant-après? Comment tu fonctionnes? Parce qu'il faut tenir quand même. Les séances durent combien de temps? Toi,
En
tu m'as dit que
moyenne,
ça,
deux
tu
bonnes
pousses.
heures, ouais.
Ouais,
Deux
de
bonnes
bonnes.
heures,
Et
ouais.
comment tu fais? Tu tournes au beurre de cacahuète comme il faisait Froning
Ouais. Alors, en fait, donc moi, en fait, je vais manger avant, après et pendant. Je vais, alors, je vais pas avoir une solution avec du dextrose parce que j'ai déjà essayé par le passé et ça me réussit pas trop. Je suis pas, j'aime pas trop le fait que ce soit dilué, etc. Par contre, ce que je vais avoir, c'est forcément, c'est des BCAA pendant l'entraînement, quoi.
D'accord.
Ah, pour ça, clairement, voilà, c'est vrai que c'est vraiment ce que je vais avoir à chaque séance, parce que du coup, voilà, j'ai clairement ressenti la différence sur des séances de 2 heures au niveau de justement de l'énergie, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment un des seuls compléments alimentaires qui serait indispensable au jour d'aujourd'hui, quoi, avec les oméga-3.
Ouais.
Mais du coup, voilà, comment je vais m'organiser. Donc, si je sais que la séance va durer à peu près 2 heures, je vais manger solide une petite collation 1 heure avant. Donc là, du coup, à ce moment-là, je vais peut-être prendre une whey pour justement pas avoir de problème au niveau de la digestion plutôt que du solide. Donc je vais pas prendre forcément des œufs avant de faire une séance comme ça. Après je vais avoir un mix en fait entre donc je vais prendre en règle générale je prends une banane et après je vais prendre une source de glucides assez simple à digérer. Donc je vais pas prendre des flocons d'avoine par exemple 1 heure avant. Je sais que ça va me gêner un peu. Par contre voilà je vais faire un petit mix entre banane, fruits secs type style datte, abricot sec, pruneau, etc. Avec une petite poignée d'amandes léger juste pour que voilà vraiment pour que ça me tienne pas sur l'estomac quoi. Et c'est vrai
D'accord.
qu'en règle générale j'ai pas du tout de soucis au niveau de la pendant l'entraînement je suis pas gêné. C'est vrai que j'ai
Et
essayé beaucoup.
tu mixes tout ça ou tu le manges ce qui est solide, tu le manges solide et liquide, liquide?
Non, solide, solide, liquide, liquide, ouais.
Ok.
Fais en sorte vraiment juste qu'il y ait vraiment au moins 1 heure entre les deux.
D'accord.
Parce que j'ai déjà fait plusieurs essais, c'est vrai que selon ce qu'on doit faire, par exemple quand on a des efforts cardio à haute intensité, franchement, c'est pour ça que je le fais en fin de séance d'ailleurs, parce que s'il n'y a pas au moins 2 heures, 2 heures et demie, ça remonte et t'as envie de vomir, enfin c'est horrible, quoi.
Ben moi, quand je faisais des sprints sur stade, j'y allais le matin et il fallait que j'aille à jeun. Si je
Ouais,
mangeais.
c'est.
Alors, je sais que les gens, ils peuvent se dire, mais à jeun, etc. Mais moi, je savais que si je perturbais un tout petit peu ma glycémie, je me tapais une hypo pendant l'effort. Alors que si je la laissais tranquille, c'est-à-dire à jeun, je pouvais faire l'effort et après, je mangeais. Je ne faisais pas du tout d'hypoglycémie. Moi, je suis très sensible, en fait, à ça. Enfin, très. Je ne suis pas très sensible, mais. Disons que je pense que quand tu es un peu sur le fil du rasoir au niveau apport calorique, dépense calorique, tu as vite fait en fait si tu fais un effort un peu plus intense, de basculer quoi. Et je sais que moi, consommer dès le matin des glucides, ça me réussit, mais pas du tout. Alors faire un effort intense derrière, c'est pas possible. Et comme toi, j'aurais plus été, tu vois, sur des. Enfin, j'aurais pas fait comme toi avant les sprints, mais si je devais faire du crossfit, je serais plus sur quelque chose de très digeste, en fait.
Ouais, ben c'est aussi, ouais, en fait, ben, de toute façon, j'ai fait plusieurs expérimentations hein, pour me rendre compte de ce qui marchait vraiment sur moi. Donc, voilà, au final, là, au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui tolère assez bien les glucides et j'en ai vraiment besoin par rapport au type d'effort que c'est, parce que, voilà, on est souvent, en fait, vraiment dans la filière où on va utiliser majoritairement le glycogène, étant donné qu'on va être sur des durées. En termes de tension, voilà, qui vont être toujours sur les watts, notamment, on va être vraiment toujours entre les deux. Donc, c'est vraiment de l'intensité et on est vraiment sur de la dépense à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'avoir un. Enfin, Ouais, moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin d'avoir un apport en glucides constant dans la journée pour recharger mes stocks, quoi.
Ben
Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que donc après la séance, par contre, là, j'ai un gros repas solide type récupération, donc pas un shaker, vraiment un repas complet. Donc, ce que j'aime bien me faire généralement, c'est des pancakes avec voilà des œufs biologiques, deux bananes, voilà, c'est quelque chose justement qui m'apporte glucides, protéines et lipides de bonne qualité aussi.
oui.
Pour tout ce qui va être hormonal, notamment, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail nerveux aussi, que ce soit l'haltérophilie ou la force. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai un apport en lipides aussi qui est, au final, qui est assez conséquent par jour. Je dois être à peu près à 1,2 ou 1,3 grammes par
Moi,
rapport
je
à mon
crois que je suis à
poids
plus. Moi, je suis à plus, mais je ne le dis pas trop. Bon, voilà, ben c'est trop tard, je l'ai dit. Mais
corps.
je consomme beaucoup de graisse, moi. Enfin, et je me rends compte que c'est vraiment mon gasoil pour moi, quoi.
Ben, moi, c'est vrai que ça me réussit pas mal aussi, mais c'est surtout que en fait, j'en ressens le besoin
Ben, c'est ça, ouais.
quand je suis sur des efforts vraiment, enfin, quand je suis vraiment sur des cycles de force, etc. Clairement, j'augmente mon apport en fait quasiment instinctivement parce que je sais que c'est ce qui va me permettre d'optimiser au niveau hormonal et de récupérer d'ailleurs. Parce que c'est vrai que.
J'ai l'impression que moi ça marche un peu, tu vois, au niveau, je sais pas, au niveau thermostat, la graisse alimentaire, ça te fait monter un peu le thermostat intérieur, quoi. En hiver, en manger plus, ça fait du bien. Moi, je sens que je suis naturellement plus appelé par des fois de la dernière fois, je voulais prendre de la viande rouge, j'ai pas pris de la 5%, il me fallait du gras en fait, j'avais besoin de viande grasse. Et je ressens le besoin, en fait, je suis attiré par ça. C'est mon corps qui me le demande. Je sais pas comment l'expliquer, mais et je sens qu'après je me sens bien, tu vois. Je mange ça et je me sens vraiment bien, comme si c'était. Ben, il y a des gens pour qui ça marche pas. Hein. Il y a plein de nanas et tout, elles ont pas envie, ça les dégoûte, etc. C'est instinctif, elles aiment pas ça. Moi, c'est plutôt le contraire. Je peux m'en passer pendant une semaine. Je vais manger des viandes maigres, du poisson maigre, etc. Mais il y a un moment où je suis appelé en fait par cette bouffe grasse. Je sais pas si ça te le fait toi aussi, mais.
Ben moi clairement je pars du principe que dans la mesure où la viande que je vais consommer ou les œufs que je vais consommer sont de bonne qualité, que ce soit le poisson aussi également, ben voilà, je pars du principe que justement c'est du gras qui va m'être bénéfique, et donc je vais pas forcément non plus être très à cheval sur le pourcentage de masse grasse de la viande ou autre, voilà, dans la mesure où c'est justement je sais que j'en ai besoin en plus. Et c'est vrai que voilà, je ressens vraiment les bénéfices au fur et à mesure, quoi. Donc c'est vrai que je vais pas non plus voilà, je vais pas me faire attention à ça. Et justement, c'est vrai que je sens réellement l'impact que ça me fait d'un point de vue récupération par rapport au fait que quand je consomme pas, par exemple. Quand j'arrive à le ressentir, ouais. C'est vrai que du coup, je vais pas hésiter à mettre 2 cuillères d'huile d'olive, par exemple. Enfin voilà, c'est.
Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Bah écoute, je pense qu'on est pas mal, on est assez complet, hein. Après, peut-être que ce qu'on pourrait peut-être faire une petite parenthèse sur peut-être les idées reçues et l'avantage de cumuler peut-être les deux pratiques
Ouais.
pour les gens peut-être lambda qui hésitent peut-être à se lancer ou qui justement ont un peu des fausses idées là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses.
Bah, la meilleure idée reçue, c'est les crossfitters, ils sont tous secs et musclés. Je vais plutôt faire ça à la place de la muscu.
Ouais, alors celle-là, ouais, celle-là, je veux bien étaler un peu dessus. Donc clairement, voilà, faut être franc, hein, c'est totalement faux. En fait, faut bien prendre en compte que les gens qui sont comme ça, enfin voilà, qui sont comme ceux qu'on voit à la télé, ont des antécédents sportifs vraiment énormes, ont un gros bagage de gymnastique, d'haltérophilie, enfin voilà, c'est leur masse musculaire, ils l'ont pas construit avec le CrossFit. Ils l'ont eu par rapport à ce qu'ils ont fait en amont, et en fait voilà, le type d'effort qu'ils font leur permettent de maintenir cette masse musculaire imposante et permet d'entretenir justement le doute entre pour savoir si c'est ça qui leur a fait prendre cette masse musculaire ou pas. Donc moi maintenant, pour être passé dans les deux, pour avoir vraiment bûché les deux catégories assez intensément, je peux aussi dire que sur moi, voilà, c'est clairement mon physique, je ne le dois pas à la pratique du CrossFit. C'est ce que j'ai fait en musculation qui m'a amené sur ce physique-là. Et le CrossFit, en fait, m'a juste permis, entre guillemets, de garder, en fait, de conserver une qualité musculaire et une masse grasse relativement basse à l'année, mais sur les bases que j'ai construites sur la muscu. Donc voilà, ça c'est vrai que je pense que c'est important de dire ça, parce que beaucoup de personnes hésitent à faire que l'une ou que l'autre par rapport à ça. Pas que pour des soucis de performance, pour des soucis esthétiques aussi. Et donc voilà, clairement, les deux disciplines sont compatibles. Et voilà, il y aura un choix à faire en fonction de votre mode de vie, en fonction de combien de temps vous êtes prêt à investir dans la salle, à la salle, par semaine. Voilà, qu'est-ce que vous voulez réellement? Si vous voulez vraiment juste optimiser votre physique d'un point de vue esthétique, le CrossFit va pas vous apporter ça. Il faudra vraiment se concentrer sur la muscu et mettre votre énergie à progresser sur vos séances et à vraiment se concentrer sur ça. Si vous voulez améliorer vos performances physiques, là, à ce moment-là, le CrossFit peut se concevoir, mais faut avoir conscience que le fait d'améliorer vos capacités physiques va pas forcément se répercuter comme vous l'attendez d'un point de vue esthétique si vous ne faites pas ce travail-là à côté. Voilà, donc c'est bien de remettre ça dans le contexte aussi, parce que du coup, voilà, nous, ce qu'on fait en CrossFit, voilà, on ne va pas rechercher l'esthétisme. Clairement, on sait ce qu'on fait, on le fait pour la performance, on veut progresser dans ce qu'on fait, on veut être capable de voir jusqu'où on peut aller, d'aller de plus en plus haut, etc. Le physique, c'est qu'une conséquence de tout ça, c'est pas l'objectif numéro un. C'est vraiment juste ce qui c'est entraîné, ça fait partie de la progression. Mais c'est vraiment pas ce qui va être recherché, quoi. On va vraiment se focaliser sur la perf avant tout. Et si le physique vient, ben il vient. Et voilà, s'il vient pas, il vient pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de profils différents. On n'a pas forcément que des personnes qui ont le six-pack apparent et qui sont à taille plus 10 à 8% de masse grasse. On a aussi des gens voilà, qui ont un petit peu de gras, qui voilà, c'est tous les gens sont pas taillés type athlète en CrossFit, loin de là. Donc voilà, c'est
Et
bien de savoir ça aussi.
même des athlètes performants.
En règle générale, les athlètes performants ont déjà un gros bagage derrière eux, donc ils ont un physique déjà. Le physique qu'ils ont, ils l'ont déjà entre guillemets depuis quelques années. Donc c'est vrai que
D'accord.
pareil, comme je te dis, voilà, c'est vraiment qu'une conséquence.
Bah ouais.
Mais je pense que c'est bien que les gens le sachent, ça quand même. Donc
Ah
même
ouais, non, mais
si
c'est très bien, ouais.
voilà, parce que
C'est super d'en parler. Après, faut pas que ça décourage certains qui préfèrent le CrossFit que la muscu. Moi, voilà, je prends un peu le contre-pied en leur disant que si vous détestez la muscu classique, mais que le CrossFit, vous sentez que c'est le truc un petit peu en groupe et tout qui va vous aider, vous allez quand même un peu vous changer physiquement, hein. Donc, c'est sûr que ça sera mieux que de rester chez vous, hein. Et puis,
Ah oui,
vous allez,
clairement.
au niveau de votre santé, vous allez travailler un petit peu plus de filières, on va dire, que si vous faites que de la muscu. Après, je pense qu'au niveau CrossFit et au niveau muscu, ça c'est pareil, j'en parle souvent avec un ami. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui sont pas vraiment capables de se conditionner à faire de la muscu, du cardio, du stretching, des choses comme ça. Moi, personnellement, je fais pas de CrossFit, mais bon, tu vois, je fais mes séances muscu ou pas. Parfois, j'ai un petit peu de force, après des séries plus longues, etc., avec des temps de repos courts et tout. Mais tous les matins, je fais mon yoga. Donc, est-ce que ce n'est pas une forme pour moi aussi d'étirement et de mobilité? Je fais du cardio régulièrement. Donc, moi, je n'ai pas de problème, si tu veux, pour varier les types d'activités physiques. Mais il y a des personnes qui, si elles ne sont pas dans un enclos, en fait, dans un endroit où elles suivent un mouvement, elles auront du mal. Elles vont aller uniquement vers ce qu'elles aiment faire, c'est-à-dire du développé couché. Et je pense que le CrossFit, pour ça, c'est très bien, parce que ça va amener les gens à pas vraiment avoir le choix, en fait, hein. Ils vont faire ben voilà, des barres, mais aussi de la course à pied, mais du rameur. Et de ce point-là, je pense que pour les personnes qui ont du mal vraiment à se motiver à faire les choses qu'elles n'aiment pas faire, le CrossFit peut être intéressant.
Oui, clairement. De toute façon, en plus, voilà, il faut le dire, si De toute façon, si la personne est débutante totalement dans une activité, que ce soit dans le sport, même de manière générale, voilà, le fait de se mettre au CrossFit, lui fera prendre de la masse musculaire, de manière générale, améliorera sa composition corporelle par rapport au fait que ça va imbriquer un stress nouveau pour son corps qui n'est pas habituel et que du coup, voilà, tout son organisme va répondre. Donc, cette personne-là aura aussi des résultats esthétiques. Certes, à moindre niveau par rapport à une activité type vraiment musculation, où on se concentre vraiment là-dessus, mais elle aura quand même des résultats. Donc voilà, faut aussi être clair là-dessus. Elle va perdre de la masse graisseuse, elle va améliorer son cardio de manière générale, son énergie au quotidien de manière générale. Enfin voilà, il va y avoir tout un effet positif, même si on ne parle que vraiment d'aspect esthétisme, ça ne va pas être aussi important que si cette personne-là enfin, faisait uniquement de la musculation, ça c'est sûr.
Oui. Bon, ben ça fait 1h07 et 1h03 d'enregistrement. Donc je te propose de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour coaching ou même te suivre sur Instagram, etc.
Oui, bien sûr. Je suis sur Instagram, donc mon compte c'est ThéoFitness83. Ouais, donc je propose des programmations du coup d'entraînement, quels que soient les objectifs, en fonction de ce que la personne recherche, du temps qu'elle a à disposition.
Ouais.
Et on peut me retrouver aussi également sur Facebook, sur Théo-Fitness, tout simplement. Donc c'est ma page pro sur Facebook. Et j'ai également lancé un site il y a peu. Donc l'adresse c'est théocoaching.com. Voilà, tout attaché du coup, où je commence aussi à écrire un petit peu des articles. Et c'est tout récent. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le CrossFit et sur mon activité de manière générale, vous pouvez me rejoindre sur ces adresses-là.
Ben super. Ben en tout cas, merci. Et puis, ben on se dit à très vite. Si les gens ont des questions, on pourra te réinviter.
Bien sûr, je te remercie Théo. Au top.
Bye. Bon, comme vous avez vu, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une approche alimentaire qui a changé aussi dans son parcours à Théo et qui l'a amené, en plus de la pratique du CrossFit, à avoir un meilleur physique. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse par rapport à la diète paléo, sachez que j'ai écrit un article qui s'appelle Mon expérience avec la diète paléo, que je vous mets directement dans les notes de l'émission, donc glissez vers le haut là ou vers le bas, je ne sais pas sur quelle plateforme de podcast vous m'écoutez, pour voir et lire cet article-là qui s'appelle Mon expérience avec la diète paléo, sinon vous le tapez sur Google ou sur fitnesssmith.fr. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!